7. Le chemin de mémoire. Et maintenant que le temps de l'oubli est venu, c'est-à-dire maintenant que ce passé revient plus fortement que jamais en mémoire, je ne peux plus le raconter à Michel. Je ne sais plus où trouver Michel. Georges Semprin. Dans l'herbage bordant la route, s'étirait une carcasse de cheval. Il n'en restait déjà plus grand-chose. Les pieds portaient encore des fanons. Quelques lambeaux de chair rougissaient par endroits les vertèbres ou le grand arceau des côtes. Des lambeaux de toison et de crinière étaient éparpillés autour de la charogne. Certains os n'étaient plus solidaires et avaient été déplacés. La bête crevée avait servi de festin aux corbeaux, aux loups, aux renards et aux sangliers. La bande de cavaliers n'accorda guère d'intérêt à ce cadavre. Seul le petit Kell s'écarta de la voie pavée pour aller regarder ses ossements de plus près. Il les contempla avec le frisson trouble qu'éprouvent certaines sensibilités au voisinage de l'horreur. Nem, à demi retourné sur sa selle, le rappela sèchement à l'ordre. L'air offusqué, le page pressa les flancs de son méchant cheval pour rejoindre l'écuyer.
« Quelle idée d'aller renifler de près une charogne !»
grommela le vieux servant d'armes.
« Tu as vraiment la tête malade, mon garçon !»«
Je ne l'ai point reniflé !»
regimba le jouvenceau d'une voix au perché.
« Je l'ai inspecté !» Eh bien, m'en a pris. Le crâne a été fendu par une blessure fort nette. Rien à voir avec une attaque de bête sauvage. Ce cheval a été tué de main d'homme. Nous ferions de mieux de nous garder contre les embuscades. »
Nem coula un regard dubitatif à son jeune compagnon. S'il ne jugea pas nécessaire d'avertir son seigneur, qui chevauchait plus avant avec les deux autres chevaliers, il eut néanmoins la précaution de décrocher son arbalète de cavalerie pour la poser en travers de l'arçon. Autour d'eux, les autres pages et écuyers se mirent à surveiller avec un regain d'attention les abords du chemin qui, de façon assez malcommode, était flanqué par d'épais alliés. Quelques pas devant eux, trois champions chevauchaient en direction des tristes ombrages du bois de verre. L'avant-veille, le chevalier aux pies et le chevalier aux épines avaient fait étape à Mortemarque. Dans le château du comte, il s'était réjoui de retrouver le chevalier de Thèves, en voie de guérison. Le champion malheureux de la duchesse boitait encore. Cependant, quoiqu'il ne fût pas complètement remis de la blessure reçue au tournoi, il rongeait son frein, tant les nouvelles parvenues jusqu'à lui étaient graves. Le voyage à Vert, sans l'exposer aussitôt au hasard des combats, lui permettait de remettre le pied à l'étrier. Il était pressé de présenter ses hommages à la dame au service de laquelle il avait tant sacrifié. Sa hanche luxée lui paraissait peu de chose en regard de l'attentat qui avait frappé la duchesse, et il était heureux de lui présenter bientôt ses vœux de guérison. Sitôt que la requête du comte de Quimarque lui eut été présentée, il était prêt à partir. Le chevalier aux pies en était ravi et tout disposé à reprendre la route, mais le sire de Vaumacel avait jugé plus sage de passer la nuit dans le chef-lieu du comté pour laisser un peu de repos à ses servants et ses chevaux. Cette première nuit passée en compagnie du chevalier de Thèves avait été l'occasion de lui rapporter par le menu les dernières nouvelles de Neuvidine. Cohir de Thèves s'en était montré fort affecté. Si la nouvelle de la défaite du pont d'Aberbéchan avait déjà couru à Mortemarque, en revanche, on ignorait encore les noms des grands seigneurs qui y avaient trouvé le trépas. Le sire de Thèves avait déploré la mort de ses adversaires de la veille, y compris celle du connétable de Traval, bien que le grand officier ducal l'eût naguère vaincu en duel judiciaire. Ces disparitions ne réglaient rien, estimait-il, et le privait même de tout espoir de revanche personnelle. Assez ironiquement, son cousin Ollier de L'Aulnay avait survécu à la bataille, parce que, Tout comme lui, les blessures qu'il avait reçues à Lindinas l'avaient empêché de se joindre à la campagne. Le chevalier de Thèves se désolait de voir que des adversaires honorables avaient trouvé leur destin face aux Ouromans, tandis que son ennemi privé était toujours de ce monde. L'absence de vergogne avec laquelle le roi barbare rejetait la rançon de Claudas de Quimarc afin de le traiter en otage avait également rempli d'indignation le chevalier de Thèves. Il avait accepté sans hésiter d'appuyer l'ambassade du chevalier de Vaumacel, mais aussi prévenu qu'elle serait difficilement entendue par la duchesse et le seigneur de Vayres. Toutefois, par gratitude pour Edan de Vaumacel, qui lui avait épargné la capture au premier jour des combats à Lindinas, et pour le comte Anguzel, qu'il avait si bien reçu et soigné, Cohir de Thèves se sentait le devoir d'appuyer leur démarche. Depuis Mormarc, les trois chevaliers et leur suite avaient voyagé sans encombre, bien que le pays ne fût point exempt de troubles. Le bourg de Tafarnin, qu'ils avaient traversé la veille, avait été récemment mis à sac. Et le petit fort de Kercapel, à la frontière entre le comté et la seigneurie de Vayres, avait été mis en défense. Au cours de brèves haltes, manants et sergents d'armes leur avaient parlé d'abondance de la menace ouromande qui refermait ses mâchoires sur les terres de Quimarc. À l'est, les assauts des clans contre le château de Kerlund inquiétaient presque autant que la chute de Vekinsberg et l'invasion de la côte de Brekezan à l'ouest. Si l'armée ducale ne se reprenait pas pour repousser l'envahisseur, le comté de Quimarc serait bientôt une île menacée de tous côtés par la marée barbare. La fièvre qui saisissait la population ne faisait que renforcer le chevalier de Vaumacel dans sa résolution de défendre la proposition du comte auprès de la duchesse Odéarde. Cependant, les trois preux n'avaient encore vu nulle trace de l'envahisseur dans le nord-est du comté. Le pillage de Tafarnin n'avait été que l'un des malheureux désordres qui éclatait régulièrement aux frontières de Quimarc et des terres ducales. En fait, ce court voyage fait entre gens de bonne compagnie eût été presque agréable s'il n'avait été obscurci par la nuée de l'invasion. Peu de temps avant de passer à côté de la carcasse équine, le chevalier de Thèves s'était réjoui de voir leur chemin se transformer en route pavée. C'était le signe qu'ils approchaient du bosquet de Vayres. Au-dessus des frondaisons broussailleuses de la forêt, l'étrange surgissement de tours et d'arches du château ne tarderait plus à se dessiner sur les horizons. Au bout de quelques centaines de pas, de hautes stèles, plantées de part et d'autre de la voie, signalèrent la limite du bois consacré. Le chevalier Hopi arrêta sa monture pour observer tout à loisir les bas-reliefs usés qui ornaient les cipes. Par politesse, ses compagnons suspendirent leur marche, et tout le convoi vint s'embouteiller derrière eux. L'œil de l'elfe détaillait froidement les crânes édentés que les lichens et le temps avaient en partie effacés. Si les traits de l'aventureux n'étaient point dénués de dureté, leur beauté juvénile et la nonchalance qu'il affectait d'ordinaire ne le privaient pas d'aménité. Toutefois, en contemplant ce symbole macabre, il avait perdu le sourire et même toute insouciance. Sa figure s'assombrissait en une expression tranchante, où transparaissait de la répugnance, de l'hostilité et, peut-être, une trace de tristesse. Ses deux compagnons respectèrent quelques instants son silence. Puis, celui-ci se prolongeant de façon un peu embarrassante, Cohir de Thèves crut bon de distraire l'elfe de ce qui ressemblait de plus en plus à une rêverie maussade.
« Je crois savoir que, dans les cinq vallées, le culte du desséché est proscrit, » dit-il. « C'est du moins ce que nous enseignent nos chansons de gestes. Il en a été de même en Bromel après la chute du royaume de Léomance, mais ce n'est plus le cas depuis l'époque du duc Ardre. Cependant, le culte que nous rendons au Seigneur des morts n'est plus celui qui a semé tant de malheurs.
Vraiment, en jureriez-vous ? Répondit lentement l'aventureux, sans quitter le bas-relief du regard.
Eh bien, je ne suis point grand clerc, mais la réforme Yémal a interdit la nécromancie royale. Désormais, les dessicatoriens se consacrent entièrement au service du dieu et au repos des défunts.
Jadis, c'est ce qu'ils prétendaient déjà faire. Or, vous savez que ces fous ont fini par commettre tout le contraire.
Le royaume était en voie d'effondrement, et la folie était devenue le lot de tous. C'était des temps troublés.
Un sourire sans joie flotta sur les lèvres de l'elfe. « Nous vivons des temps troublés, » reprit-il en écho. Désignant de la main le bas-relief macabre, il ajouta avec dégoût. « Ces signes néfastes infestent encore les terres gastes que vous appelez les landes grises. Là-bas croupit toujours un souffle maléficier. » Des prêtres spectraux en funèbres atours y font de la magie noire. Ceux dont la vie se défait dans ces désolations de tristes mémoires ne peuvent trouver la paix.
De si grands crimes furent jadis commis dans ces provinces qu'elles sont irrémédiablement maudites,
convint avec tristesse le chevalier de Vaumacelle.
Vous y êtes-vous risqué quand vous serviez l'ordre du sacre ?
S'enquit le sire de Thèves.
J'ai surtout servi dans les commanderies qui défendent la principauté contre les coups de main des bégards sur la marche la plus méridionale de Sacralia. Cependant, il m'est arrivé de faire quelques incursions sur cette terre déchue. Ce que j'en ai vu m'a laissé une impression sinistre.
Assurément, le bosquet de verre n'est pas l'endroit le plus plaisant du duché,
mais il n'a plus rien qui soit comparable aux landes grises,
pondéra Cowyr de Thèves.
La guerre qui a opposé jadis l'archonte au siège ducal n'anime plus que de vieilles chansons.
Les morts demeurent dans les vieilles chansons, rappela doucement le chevalier au pis. L'oiseau de l'aventureux qui voyageait depuis un moment perché sur l'épaule du petit Milouin prit son envol dans un bruyant battement d'ailes pour venir se percher sur l'une des stèles. Redressant la queue, la pie lâcha une grosse fiente sur la pierre, puis reprit son vol en ricassant à grands cris. En écho, l'aventureux et les pages se joignirent à son rire. Les deux autres chevaliers ainsi que le vieux Nem se montrèrent plus partagés, n'osant trop se réjouir d'une facétie si païenne. Mais cette bouffonnerie détendit un peu l'atmosphère lorsque la troupe se remit en marche. La route longeait un coteau boisé. Au bas de la pente, le murmure funèbre d'un cours d'eau résonnait sous les ombrages. Quoique ces futaies ne fussent pas les plus lugubres du bosquet de verre, le chevalier Hopi continuait à les considérer avec aversion. Toutefois, par civilité pour ses compagnons, il s'efforçait de voiler ce sentiment. Au bout de quelque temps, le chevalier de Thèves lui fit compliment de cette courtoisie.
« Comme c'est aimable à vous de ne point vous étendre sur les réserves que vous inspirent ces lieux. »
J'aurais très mauvais effet de vous fatiguer avec mes préventions.
Pourtant, vous ne nous escortez que par amitié. Rien ne vous force à gagner verre avec nous, puisque vous êtes chargé d'un message pour une autre dame.
J'ai voyagé à travers des contrées infiniment plus désolées. Je ne veux pas avoir l'air de me morfondre en une humeur si contristée. Du reste, je suis curieux de visiter le château que Sénargin, par ses sorts artificieux, préserva de toute une armée de défunts.
Il est vrai que la place forte reste intimidante,
dit le chevalier de Thèves.
Elle est parsemée de statues et de symboles dont le sens m'échappe. Y dorment encore quelques enchantements, si j'en crois ce que m'ont rapporté le seigneur et la dame. L'endroit est à la mesure de ce que raconte la chanson des preux.
L'art de l'enchanteur devait être absolument merveilleux pour avoir érigé une forteresse aussi démesurée. Le chevalier Hopi inclina légèrement la tête de côté, l'air mi-rêveur, mi-amusé, en se laissant porter quelques instants par le pas de son cheval. Merveilleux ou périlleux ? S'interrogea-t-il. La question mériterait d'être posée. Le mage était ambitieux, ses évocations plus que démesurées et son âme clairvoyante. Pour autant, ses tours étaient-ils raffinés ? Ou des chimères stupéfiantes ? Certes, le secours qu'il nous a prodigué joua un rôle crucial dans une situation désespérée au cours du combat final. Mais ses créations étaient improvisées et même mal ficelées. À dire le vrai, l'homme était un peu fou. Kowir de Thèves considéra l'aventureux avec un mélange d'étonnement et de circonspection. « D'où tenez-vous pareilles opinions ? » demanda-t-il. « De mon propre jugement. »« Comment cela ? Vous ne pouvez avoir connu l'enchanteur Sénargin. Ne vous méprenez-vous point sur la personne ? » ?»« Bien sûr que non. Je ne confonds rien du tout. Il n'y a pas si longtemps qu'a fait rage la guerre des grands vassaux. » Or, je dois bien reconnaître que j'aurais succombé aux mortels assauts des lémures et de leurs maîtres sans les fantasmagories de Sénargin. Après le double trépas du grand Guillaumer et du prince Osirian, quand nous étions aux abois, l'enchanteur fit flèche de tous ses talents pour contrecarrer l'archonte et abasourdir les cohortes de mort. Ses propos délivrés sur un ton dont le naturel était teinté d'une modestie étudiée, firent forte impression sur la compagnie, tout particulièrement sur Kowir de Thèves, ainsi que certains des pages et écuyers. À l'arrière de la colonne, les bavardages s'interrompirent, et tous de dresser l'oreille. Le chevalier de l'hôtel de la Duchesse, sans quitter des yeux le profil de l'elfe aux traits délicats, parut hésiter sur le sens de sa tirade. L'aventureux du bois Oiselet se moquait-il ? Ou se targuait-il réellement d'un âge et d'une expérience extravagants ?
Vos souvenirs sont assurément extraordinaires,
commenta le sire de Thèves en conservant une prudente équivoque. Vous les prenez pour des contes ? Releva l'aventureux avec nonchalance.
C'est que vous paraissez fort jeune pour avoir été témoin de si anciens désastres.
Le chevalier Hopi esquissa une moue ironique. « C'est un point où je ne puis vous donner tort, » convint-il. « Je ne suis pas très âgé. Et pourtant j'ai arrosé de mon sang le terrain bouleversé des charniers et des champs de guerre d'antan.
Voilà un mystère difficile à concevoir, » observa le sire de Thèves. « On raconte que les vôtres ne vieillissent guère, mais si ce que vous nous dites est vrai, ce serait plutôt à croire que vous ne vieillissez point.
Oh, le temps pèse sur nous, et ne nous épargne pas ses amertumes. Mais votre existence à vous est plus légère et fugace que la brume. C'est la raison pour laquelle ce qui est récent, vous paraissiez ancien.
La guerre des grands vassaux remonte à 2 siècles.
Une crise presque actuelle.
Quoi ?
2 seulement ? C'était hier matin. « Même vous, j'en oublie,
vous en avez conservé le souvenir. »«
Et donc, vous auriez connu l'enchanteur Sénargin ?»«
Il serait présomptueux de ma part que de vouloir le soutenir. Au mieux, je l'ai entrevu, alors qu'il évoquait de troubles chimères. »«
Vous avez donc été témoin de sa lutte contre l'archonte Insanias ?»«
J'en ai eu un aperçu. Mais point lors du siège du château de Verre. » La haute reine hésitait encore à intervenir dans le conflit. Ses doutes eurent pour effet de renforcer le contingent ennemi de quantité de morts frais. Lorsqu'enfin nous sommes entrés en Léomance, le roi idiot l'emportait. Tout le pays tombait en déliquescence. Dans les provinces ruinées marchaient autant de défunts que de vivants. Ces infestations armées nous ont valu force combats et tourments. Ce ne fut qu'à très grand peine que nous avons passé la Malvergne hantée et nos armes ont été vaines lorsque nous avons secouru Chrysophée. Bromel, hors de portée, nous avons cédé du terrain vers le nord. Dans cette triste équipée, nous avons été rattrapés sur les bords de la rivière Listrel. C'est là que le duc Jürgen nous a rejoints avec ses troupes fidèles et le soutien de son mage Sénargin. Là s'est joué le tournant de la guerre, au prix d'une horrible tuerie, d'un cruel tribut de sang, où nos capitaines ont sacrifié leur vie. Sans l'aide de Sénargin, l'armée entière des elfes aurait péri. Bien que ce fût de la main de deux des nôtres, Kinsanias fut détruit. C'est pourquoi je suis curieux de découvrir la place de l'enchanteur.
Et à quoi ressemblait-il donc, le grand Sénargin?
Comment le décrire au mieux? Il n'avait guère l'air d'un invocateur, ni d'un clerc, ou d'un lettré, mais plutôt l'allure d'un maître artisan aux grosses mains de carrier. Il emportait d'ailleurs quelques instruments, tels le compas et l'équerre. Mais il affichait aussi les houzeaux, le corps, la dague, et le mystère d'un veneur carnassier. Son art jonglait avec l'ordre et le sauvage, la sève et l'inanimé. Il paraissait avoir reçu en partage l'artifice et la vigueur. Les compagnons du chevalier Hopi méditèrent quelques instants cet étrange portrait. Le sire de Thèves finit par hocher la tête.
C'est assez troublant, dit-il. Mais le château de verre conserve un esprit voisin des impressions que vous venez de nous livrer. Comme si l'enchanteur avait habillé d'enceinte un jaillissement de force naturelle. Et bizarrement, je ne sais quelle sauvagerie semble toujours somnoler derrière les murailles.
Les prestiges de Sénargin excédaient le pouvoir de leur auteur, estima l'aventureux. Seuls un pacte ou une suggestion pouvaient lui prêter tant de puissance. L'homme ne survécut pas à sa propre gloire. Il n'avait plus d'espérance quand nous cueillîmes les fruits de la victoire.
Ce sens du sacrifice l'honore, au même titre que vos défunts capitaines,
jugea le sire de Vaumacel. Sans doute, mais à quel prix? Il est des tribus plus cruelles que la mort.
En tout cas, c'est un honneur de voyager dans la compagnie d'un preux tel que vous,
salua le chevalier de Thèves.
Pour avoir traversé ces heures glorieuses et terribles, vous devez avoir 1000 hauts faits en mémoire et 1000 anecdotes sur les héros de la guerre des grands vassaux. Vous plairait-il de nous en conter?
Le chevalier Hopi n'accueillit point cette prière avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai vu périr tant d'amis, s'éteindre tant d'âmes et brûler tant de corps, que j'aurai grande tristesse à narrer le détail de ces souvenirs. Vous permettrez que je laisse mes chagrins reposer et mes morts gésir.
Par courtoisie, Cohir de Thèves n'insista point. Derrière eux, Kel, l'air déçu, parut sur le point de prendre la parole, mais Nem le rappela à l'ordre d'un regard.
La troupe marcha quelque temps au seul son du pas des chevaux. Puis, les bavardages reprirent, parmi les servants d'armes et les chevaliers renouèrent eux aussi le fil de la conversation. Par égard pour l'aventureux, les sires de Thèves et de Vaumacel changèrent toutefois de sujet. Assez vite, les échanges revinrent rouler à propos de leur visite à la duchesse Odéarde.
« Puisse la déesse accorder à madame d'être complètement guérie de sa blessure ?» invoquait Cohir de Thèves. « Quelle vilenie ! Frapper en traître une femme de qualité. Il me prend des envies de tuer, rien que d'y songer. »
Le procédé est impardonnable,
renchérit le sire de Vaumacel.
Et cela ne facilitera pas notre ambassade. Mais pourvu que madame la duchesse soit en vie, le succès de nos entreprises n'a que peu d'importance.
Rendons grâce à la déesse pour sa miséricorde. Imaginez, sire Edan, que la dame eût succombé en notre absence. Nous ne nous serions point relevés d'un tel déshonneur. Et le duc, s'en serait-il relevé? Après tout, la tâche l'aurait d'abord éclaboussé. Le duc n'en est plus à une infamie près. Sa défaite au pont d'Aberbechan est un signe. L'honneur et la faveur du resplendissant l'ont abandonné. Si vous voulez mon avis, son temps est désormais compté.
Le chevalier aux épines médita un instant cette opinion.
Ma foi, finit-il par dire, ce serait assez fâcheux. Je vous demande pardon? Vous avez raison, Sir Cowyer. Le duc Ganelon est au bord de l'abîme. Or, il me déplairait fort qu'il chute avant que j'aie pu paraître devant lui. Après tout, je suis revenu à cette fin. Or, si le duc perd le pouvoir ou la vie avant que j'aie rempli ce devoir, je ne serai plus en mesure de laver sans équivoque ma réputation, ni celle de Madame la Duchesse.
Le chevalier de Thèves considéra le sire de Vaumacel sans dissimuler son étonnement.
« C'est un beau sentiment, reconnut-il. Mais avouez qu'il a de quoi surprendre. La chute du duc, après tout, arrangerait plutôt nos affaires. Et puis, jusqu'à présent, vous n'avez guère montré d'empressement à répondre à ses convocations. Je vous l'ai dit. Je n'ai pu me délier de ma parole auprès de l'ordre du sacre. Mais vous êtes de retour en Bromel, depuis la fin de l'hiver. Or, vous n'avez toujours pas présenté votre plaidoyer à la cour ducal. N'ai-je point défendu les couleurs de l'immortel Alindinas? Et je me suis retrouvé dans le même cas que vous, Sir Cowyer, navré d'un méchant coup. Loin de moi l'idée de vous en faire reproche. Vous vous êtes d'ailleurs bien mieux illustré que moi pour la défense de la dame. Or, justement, votre réputation est restaurée, tandis que l'attentat contre la duchesse déshonore Ganelon. La situation s'est clarifiée. Tout un chacun peut voir où se trouvent les mérites et les torts. Dès lors, à quoi bon désormais vous exposer au jugement d'un félon? Cela fera taire une fois pour toutes les calomnies qui me peignent en coire. Faut-il pour autant vous montrer téméraire? Étrange mise en garde, de la part du preux qui, en mon absence, a défendu l'honneur de Madame la Duchesse en champ clos. Eh, justement, Sir Edan, je mesure mieux que quiconque ce que j'ai perdu dans ce combat, alors que je ne faisais que remplir mes devoirs de chevalier de l'autel. Si vous vous livrez au pouvoir de Ganelon, vous paierez cher votre sens de l'honneur. Les fourberies de Lindinas, et tout particulièrement ce coup de poignard que vous avez reçu, devraient vous prêter à réfléchir. Oh, mais c'est tout réfléchi.
Se tournant vers le chevalier au pie, qui continuait à considérer le paysage d'un air morose, le sire de Vaumacel le prit à témoin.
N'êtes-vous pas de mon avis, Sir Hamelin?
Nous ne sommes plus que deux, répondit distraitement l'elfe. L'aventure n'en est que plus intéressante.
S'adressant à nouveau au sire de Thèves, le chevalier aux épines crut bon de développer.
Je vous sais gré de vos avertissements. Mais je n'ignorais point qu'en comparaissant devant le duc, je me jetais dans la gueule du loup. Il était clair qu'en me présentant à la cour, je n'y trouverais guère d'appui, puisque même les partisans de la duchesse me reprochaient mes manquements. Or, j'avais eu vent de quelques rumeurs qui me laissaient croire que les aventureux du bois Oiselé erraient en Bromel. Quoique nous ne nous connussions point encore, nous étions liés en quelque sorte par des loyautés communes. Voilà pourquoi j'ai un peu tardé à remplir mes devoirs auprès de Madame la Duchesse. Je voulais d'abord trouver les aventureux, et, au nom de nos accointances, en appeler à leur soutien.
Je ne puis que me féliciter de cette initiative, salua le chevalier de Thèves. Sans votre intervention, Sir Hamelin, la première journée de Lindinas s'était perdue, et j'aurais été pris par le parti ducal. »
Inutile pour si peu de m'adresser paroles reconnaissantes, éluda le chevalier au pied.
Ce n'en fut pas moins une chance que vous acceptiez d'épauler Sir Edan. Pardonnez ma curiosité, mais que faisiez-vous donc en Bromel ?
Oh, rien de bien important. De la rêverie et du vagabondage.
Eh bien, voici une flânerie qui tombait à point. Et comptez-vous toujours assister le chevalier de vos macelles devant le duc ?
Puisque notre ami Edan me prodigue cette aventure en partage,
après vos prouesses sur le pré, les seigneurs bromalois reconnaîtront facilement vos armes. Mais seront-ils bien disposés à votre égard ? Si le bruit court jusque dans l'hôtel du duc, que vous êtes de connivence avec le roi Hardclyde, je ne jurerai point que votre concours soit à l'avantage de Sir Edan.
Ce n'est qu'un malentendu qu'on dissipera par la même occasion, assura l'elfe avec insouciance. Le sire de Vaumacel accueillit cette désinvolture d'un air égal, mais le chevalier de Thèves paraissait moins convaincu.
Votre présence avec Innsberg, au moment du meurtre de Devin de Belcastel, risque de vous nuire gravement, Sir Hamelin. La cour du duc est remplie d'intrigants qui vous en feront grief et en tireront prétexte pour qu'on se saisisse de votre personne. La cour du duc, et pas seulement elle. Nous devrions aussi nous préparer à ce que nous en dirons à Vert. Madame la duchesse a naguère protégé l'écrivain. Le seigneur de Vert et son épouse sont fins lettrés et raffolent du bel églantier. L'un de leurs écuyers connaît même le roman sur le bout des doigts. Nous allons probablement devoir leur apprendre cette perte tragique. Il faudra plaider en votre faveur, Sir Hamelin. Sachant le rôle qui a été le vôtre, Madame Audéhard risque de ne point souffrir votre vue. Quant au seigneur Méléagant, il peut se montrer aussi coléreux qu'il est courtois.
Ce meurtre n'est point du fait de Sir Hamelin,
fit valoir le chevalier de Vaumacel.
Que peut-on lui reprocher ? Ses bonnes relations avec le roi barbare ?
Mais Sir Hamelin est étranger à nos guerres. Il n'est donc point tenu de prendre parti.
Il l'a pourtant fait pour vous, et pour Madame la Duchesse.
Il l'a fait par amitié.
En quoi cela l'engage-t-il dans les querelles entre Louromagne et les fiefs bromalois ?
Je vous entends, Sir Edan. Mais convenez que ce sera plus difficile à admettre pour les protecteurs de la victime. Et plaider pour Sir Hamelin nous compliquera la tâche quand il faudra exposer la requête du comte Anguzel.
Peut-être, au contraire, la mort ignominieuse de Devin de Belcastel pourra-t-elle convaincre Madame Audéhard de différer un moment sa revanche dans le dessein de repousser Louroman.
Le resplendissant vous entende, Sir Edan. Mais je gage que l'argument aura du mal à passer. Nous devrions définir la meilleure façon de présenter les choses et nous préparer à essuyer l'humeur de nos hôtes.
Les chevaliers devisèrent un moment sur la manière la plus adroite de procéder. Ce furent surtout les sires de Vaumacel et de Thèves qui en débattirent. Le chevalier Opi, qui leur prêtait une oreille distraite, n'intervenait de temps en temps que pour lancer des traits sans grande réflexion. Du reste, la route qu'il suivait semblait de plus en plus lui déplaire, et ses compagnons eux-mêmes perdaient parfois le fil de la conversation comme engourdis par la torpeur qui sourdait des bois. Le bosquet de Vert, enfin gagné par l'été, n'avait plus les nudités embroussaillées qui le décharnaient encore lors de la dernière visite du chevalier de Thèves. Pour autant, les frondaisons des beaux jours ne paraissaient que l'attrister davantage. Sur la ramée, la verdure poussait, ébouriffée et galeuse. Par endroits, les feuilles étaient piquées de rouille ou laiteuses comme si on les avait poudrées de blanc de céruse. Certaines ramures se feutraient de pourriture grise. De cette parure rabougrie émergeaient des branches séchées et des têtes de cerf aussi polies que des fagots d'ossements. De véritables berceaux de clématite étouffaient les branches maîtresses et laissaient pendre au-dessus de la route les pelotes de leurs fruits, duveteuses comme des cocons. Une léthargie épuisée pesait sur ces sous-bois. Les voix n'y portaient guère, et même les fers des chevaux sonnaient mat sur le pavé. Des mares stagnaient dans le fossé. Sous la pellicule de feuilles pourries, cette eau d'encre grouillait d'un peuple minuscule d'asticots et de larves. Pas un chant d'oiseau dans ces futaies. On n'entendait que le murmure morne d'une rivière au fond du val. Dans les trouées des feuillages, dansaient des essaims silencieux. Des nuées de mouches charbonneuses, plus vindicatives que des moustiques, venaient s'attaquer aux lèvres, aux naseaux et aux yeux des chevaux. Tout en éventant de la main ces indésirables, le chevalier Hopi faisait la moue. La répugnance que lui inspirait la sylve gâtait son aimable nonchaloir. Quelques échancrures dans la ramée permirent bientôt de découvrir, griffant le ciel, les pinacles désordonnés du château. Le soleil faisait miroiter ses toits d'ardoise comme des fers de lance, et parait son appareillage de pierre d'une pâleur fantomale. L'enchevêtrement de ses tours, tourelles, échauguettes et arcs se dessinait avec une netteté de mirage sur des nuées menaçantes.
Et ce n'est là que le sommet de la place forte,
jugea bon de préciser Kohir de Thèves.
Les collines nous cachent encore ces courtines.
Les chevaliers et leur suite s'arrêtèrent un instant pour contempler l'édifice lointain à travers la branchure d'un bouquet d'arbres morts. Puis reprirent leur route. L'aventureux du bois oiselé n'accorda toutefois qu'une attention superficielle à la folie castrale. Il avait les yeux tirés vers les sous-bois en contrebas, d'où remontait le chuchotis du cours d'eau. Toutefois, incommodé par des fragrances chancies, son attention flottait par moments, et il se protégeait alors le nez de la manche. En bordure du chemin, et sous le couvert des arbres, poussait toute une végétation aux effluves nauséabonds. Les corolles de l'anthémis fétide embaumaient la chair morte. Des relents musqués croupissaient au-dessus des épières des bois et de leurs parterres de feuilles velues. La cimicaire pointait vers les cavaliers ses grappes de fleurs minuscules, blanches comme des cierges et subtilement écœurantes. Cependant, malgré la gêne qu'occasionnaient ces parfums corrompus, le regard du chevalier Hopi revenait obstinément balayer les ombrages du vallon. Le petit Kel, intrigué, finit par scruter les taillis dans la même direction.
« Nous ne sommes pas seuls !»
finit-il par s'écrier.
« Quelqu'un longe la route à travers bois ?»«
En es-tu sûr ?» demanda Nem. « Tout est si calme. »«
Je ne le vois pas, mais je l'entends dans les feuilles mortes. Un homme seul. C'est un boiteux, mais il parvient à soutenir notre allure. »